Vous allez juste vous présenter le 20 octobre ici à Francfort, dans le foie de Francfort, dans le Business Club.
Voilà, bonjour, voilà, je m'appelle Françoise Nissen et je fais de l'édition depuis maintenant presque 40 ans par passion, même si au départ je suis chimiste et urbaniste. C'est vrai qu'on parlait de qu'est-ce qui anime. Bon, bien sûr, c'est le plaisir et la nécessité et l'envie de cohérence aujourd'hui aussi. Je pense que dans le monde tel qu'il est, tel qu'il se présente avec tout ce qui se passe, la question du sens, elle est fondamentale. Moi, je crois que je ne pourrais pas survivre si je n'essayais pas de donner du sens à ce que j'essaye de faire, à ce que nous essayons de faire. Et donc, d'être éditeur, c'est aussi dire le monde, que ce soit par la littérature, qui le dit magnifiquement, ou même par des essais. Et on publie aussi quand même pas mal d'essais engagés. Mais je ne peux pas envisager de ne pas être dans une cohérence par rapport à ça. Donc, j'essaye en permanence, autant que je peux, d'essayer de vivre en fonction de ce que... On essaye de proposer aussi la publication. Par exemple, on a toute une collection qui s'appelle « Le domaine du possible », où le livre amiral aujourd'hui, c'est « Demain », qui est le livre du film fait par Cyril Dion et Mélanie Laurent, sur qu'est-ce qui est possible pour vivre un monde qui ne serait pas trop catastrophique. Nous, dans notre quotidien, on essaye aussi de réfléchir à être cohérent avec ça, d'être citoyen. Donc c'est vrai que la maison d'édition localement à Arles essaye d'être citoyenne. On est un lieu... où on accueille les gens, on fait des rencontres avec des auteurs, on a une librairie, on a des expositions, des concerts. Depuis 40 ans, on organise des concerts. C'est aussi un lieu où il y a des cinémas, où on fait des avant-premières. Il y a aussi un restaurant. Ce n'est pas nous qui nous occupons du restaurant, mais bon, tout ça participe au lieu. Et d'ailleurs, il y a aussi un hammam, donc c'est le mélange des cultures. Et puis, toujours dans cette perspective, on a pensé aussi que c'était important de se poser des questions sur l'éducation. Et on a créé une école, dans cette peut-être dernière partie de notre vie, à Jean-Paul Capitani et moi-même, puisque nous avons un âge qui est déjà plutôt avancé. On s'est dit qu'on allait consacrer, en fait, d'une certaine façon, tout ce qu'on a fait et tout ce qu'on a pu, d'une certaine manière, engranger. Et bien maintenant, on veut l'apporter à cette école. Donc, on a créé un fonds de dotation où Jean-Paul a apporté sa ferme. Tout ce qu'on a, on le met dans la création et l'accompagnement de cette école où on essaye de poser des questions sur l'éducation aussi parce qu'à travers l'éducation qu'a suivi nos enfants, on se rend compte qu'il y a des vraies questions à poser en France. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans le système français aujourd'hui. D'ailleurs, l'OCDE, il y a encore une semaine, a pointé le système français qui se veut tellement égalitaire comme absolument inégalitaire. Et plutôt que de râler, de dire « ça ne va pas », un peu comme font beaucoup de Français, on a décidé d'agir. Et on essaye de faire, voilà.
Les questions que vous posez maintenant dans cette école, ces questions semblent encore à ces questions qui sont posées au moment où le film d'Alain Tanner sur Jonas.
Ah, c'est pas possible que vous me posiez ça. Je suis émue. C'est la première fois, quand j'ai vu Rufus dans sa tente, dans cette école, je me suis dit, plus tard, je ferai une école. Et c'est vrai que moi, je suis de la génération qui a adoré les films d'Alain Tanner. Donc, Jonas aura 20 ans en l'an 2000. Bon, il y a eu La Ville Blanche, Charles Moreau-Vif. Et c'est vrai que cette idée de l'école que j'ai vue dans ce film-là m'avait donné envie. Et depuis toujours, avec mon mari, on avait envie de faire ça. Et puis, il y a eu ce film magnifique, Être et devenir en France, qui montre tous ces gens qui font l'éducation à la maison. Ça aussi, ça m'a vraiment interrogée et donné envie, nous a donné envie, parce que c'est vraiment une aventure qu'on fait avec mon mari. Et voilà, et l'interrogation qui est née en nous à travers l'accompagnement de nos enfants.
Mais cette école, c'est juste la fin d'une tradition, d'une maison d'édition transmédiale, enfin.
Oui, c'est drôle parce que ça me paraît une évidence. Dans le champ de ce qu'on peut faire, il y a éditer, diffuser, aider à l'éducation des enfants, mais ça commence aussi dès le plus jeune âge. Et si on pervertit cette chose-là, on fait des êtres qui sont pleins de stress, de difficultés à vivre. Et nous, on a eu un enfant qui a eu ça. On ne peut pas ne pas essayer de faire quelque chose pour apporter notre contribution. Et en plus de ça, moi, dans ma vie antérieure, quand j'étais à Bruxelles, que j'étais à la fois terminé mon activité de chimiste et puis je commençais l'urbanisme, je militais dans les comités de quartier. Et donc déjà, il y a 40 ans, je croyais à l'action citoyenne de proximité. Je n'ai jamais été dans la politique, mais dans l'activité avec les gens.
Mais nos enfants, ils vivent dans un monde tout à fait différent. dans un monde peut-être pas virtuel, mais enfin digitalisé. Et ça vous donne une tâche tout à fait différente maintenant, non ?
Tout à fait. L'école aussi s'attache vraiment à être une école du réel. Donc, si le matin, ils font les cours assez traditionnels, mais pas dans le même séquençage qu'à l'école française, c'est par la pédagogie du projet. Donc, par période, ils font pendant 3 semaines de la géographie, et puis ils chantent, ils font beaucoup de musique. Et puis, ils font des cours en immersion de langue, donc c'est à la fois français, anglais et allemand. Et l'après-midi, ils font le travail avec la terre, ils font un potager, ils font du cheval, ils font le travail avec le bois. Et ils terminent la journée par un moment qu'on appelle un moment de compostage, d'infusion. Ils reviennent sur le travail du début de la journée. L'idée étant qu'à 5h30, quand ils quittent l'école sans obligation de devoir, sans obligation de cartable lourd à porter. Ils ont eu une journée qui est entre apprentissage classique et confrontation à la nature, à l'animal, à la terre, à la musique, à la pratique artistique.
Mais tout ce que vous venez de dire, excusez-moi de poser cette question, mais quand même elle est nécessaire. Quelles sont les valeurs à nous ? Quand je vois nos enfants dans ce monde digital, ils ont développé des valeurs tout à fait différentes. Enfin, peut-être ils sont même en train de redécouvrir nos valeurs par la fenêtre des moyens digitaux.
Alors, j'aurais envie de dire 2 choses. D'abord, je suis stupéfait du bonheur que les enfants ont d'être dans le réel. Ça, et il se fait que nous, on a 6 enfants vivants et 9 petits-enfants, bientôt 11. Et on voit que dès qu'on les accompagne pour découvrir la nature, pour essayer de s'affranchir des écrans systématiques, ils éprouvent beaucoup de bonheur à la confrontation du réel et de la nature. Beaucoup, beaucoup. Par ailleurs, je pense que le développement du virtuel qui leur permet d'avoir accès à toutes les connaissances oblige absolument l'éducation à se repositionner. Non, comme disait Aristophane, l'éducation c'est allumer le feu sous la marmite plutôt que la remplir. C'est absurde aujourd'hui de remplir la marmite. Il faut juste donner le désir d'apprendre. En fait, tous les enfants naissent avec beaucoup de neurones et des bons neurones. Après, tout est question de comment on les entretient. Et c'est pour ça que l'apprentissage des langues, dès l'initiale, est importante et de plein d'activités et de beaucoup faire travailler. Donc, l'école doit être exigeante aussi. Elle est le gardienne de valeurs. Ce n'est pas du coup tout une école où tout est facile. On demande beaucoup à l'enfant. Mais on le demande qu'il devienne lui-même. C'est ça qu'on lui demande. De faire l'effort d'être lui-même et pas de faire des efforts pour plaire aux autres. C'est faire des efforts pour être la bonne personne qu'il peut être.
Je vais vous poser une question d'un autre genre. Imaginez une question que j'aurais bien aimé de vous poser, et imaginez vous-même cette question et répondez vous-même à cette question-là.
Vous m'avez posé la question la plus insensée qui soit, puisque vous avez fait référence à ce film d'Alain Tanner qui a été vraiment un élément déclencheur dans ma tête. Et sur quoi j'aime bien parler, c'est l'importance de l'autre. D'une certaine façon, quand j'étais jeune, je venais d'avoir mon baccalauréat très jeune, trop jeune, manquant de confiance. J'aurais voulu être médecin pour m'occuper des autres. J'ai manqué de confiance en moi, je ne l'ai pas fait. J'ai fait de la recherche pour m'isoler et être sûr que... Voilà. Mais ce qui m'importe, c'est l'autre. Je ne vis que par l'autre. Pas que je n'ai pas d'autonomie du tout. C'est que mon plaisir, c'est l'échange. Et j'étais tellement heureuse en rencontrant le patron de la neurobiologie à Pasteur récemment et qui disait que finalement, pour entretenir son cerveau avec vitalité, le plus important, puisque le cerveau étant la chambre d'écho de l'autre, c'est le rapport à l'autre. Voilà.
Je vous remercie vraiment, madame. Je vous avais rencontré en tant que quelqu'un qui est vraiment aimable.
Et merci pour vos questions.